Chose de terrible. Nous sommes tous passés par la souffrance, souvent. Et nous savons que le Seigneur n'aime pas nous faire souffrir, mais parfois c'est le seul moyen qui nous permet d'être en sa communion. Moi, je remercie Daniel pour cette entrée en matière. Ça va ? Oui. J'ai donné un titre à ce message qui s'appelle « Tu m'as formé un corps ». Vous connaissez ce verset de Hébreux chapitre 10. Et vous savez que quelques siècles avant, peut-être un siècle et demi avant le Seigneur Jésus, la venue du Seigneur Jésus, il y a eu des exégètes, hein, des juifs qui en Égypte, et un peu, a priori en Égypte je pense, enfin, je crois pas me tromper, ont décidé de traduire la Bible qui était en hébreu en grec. Alors ça a dû certainement faire des remous, hein. Comment le texte sacré puisse-t-il être traduit en grec? Et quand vous voyez la façon dont il a été traduit en grec, hein, ce qu'on voit dans les Hébreux, au chapitre 2, au chapitre 10, et puis à d'autres endroits, on s'aperçoit qu'il a été traduit de manière très libre. « Tu m'as formé un corps » correspond à « Tu m'as ouvert les oreilles » dans le psaume 40. Et puis, dans le chapitre 2 des Hébreux, il est marqué au verset 5 à 7 « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons, et quelqu'un, quelque part, a rendu ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. » Ça correspond au psaume 8. Et dans le psaume 8, ce n'est pas tout à fait la même traduction. Les Hébreux, donc, ont traduit en grec. Enfin, ces gens, des rabbins, ont traduit la Torah en grec. Et ils ont été très libres dans leur traduction. Et dans les Hébreux, parole inspirée de Dieu, Dieu utilise cette traduction assez libre. C'est assez intéressant. Alors pourquoi j'ai appelé ça « Tu m'as formé un corps ». Alors, je vais d'abord parler d'autre chose. Hier, il y a eu un événement, hein, assez important, et deux personnes se sont liées. Et je pourrais traduire ça par quelque chose. Cathy a dit peut-être à Stéphane, « Écoute Stéphane, j'éprouve tellement de plaisir à être en ta présence que je désire toujours vivre auprès de toi. » Et peut-être que Stéphane a dit la même chose. Ils ne l'ont peut-être pas dit comme ça, mais probablement que c'est un peu ce genre de choses qu'ils ont dit. C'est merveilleux. C'est l'amour. C'est quelque chose qui vient comme ça. On se demande quelquefois comment, n'est-ce pas? Et certainement que les couples ici ont dû vivre ce genre de choses. Ça, c'est un témoignage positif de l'amour de Dieu et de la relation qui existe entre deux personnes qui, comme l'a été évoqué hier, ressemblent au lien qui nous unit à notre Seigneur bien-aimé, l'Église, le Seigneur, comme l'a dit Paul hier. Je vais vous prendre un autre exemple. Il est contemporain, c'est aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont prêts à dire « Monsieur le futur président, je suis prêt à vivre pour vos intérêts et pour les intérêts de la nation, mais pour votre programme jusqu'à la fin de mes jours. » Je ne sais pas si ça peut exister, mais il y a des gens qui sont peut-être capables. Enfin, c'est un peu ironique, n'est-ce pas? Et puis, je vous parlais d'un autre événement qui est tout à fait personnel. Tout ça, c'est lié au texte. Enfin, tu m'as formé un corps. Hein. Il y a 35 ans après, à peu près, j'ai eu mon premier emploi. Et dans mon premier emploi, j'étais tellement heureux d'avoir un emploi que je louais le Seigneur dans la voiture quand je suis revenu chez mes parents. J'étais tellement content d'avoir mon premier emploi, vous pensez bien. Et puis après, j'ai vécu, avec les défauts et avec les erreurs que j'ai faites dans cette entreprise où j'étais, quelques agressions terribles de la part du directeur, le patron. Eh bien, bon, quelquefois, il avait raison. Enfin, il avait raison d'être fâché contre moi, mais il n'avait pas raison de me faire souffrir, enfin, disons, de, de me mettre dans cette situation qui faisait que mon corps lui-même réagissait de manière très forte aux agressions verbales de ce personnage. Il n'a pas aimé l'évangile. J'ai eu l'occasion de lui en parler peut-être une ou deux fois. Et je vous assure que les employés étaient eux-mêmes terrorisés par ce personnage. Il y en a même certains qui ont dit, écoute Étienne, ce qui t'est arrivé, j'ai eu le cancer. Ils m'ont dit, si tu as eu le cancer, c'est à cause de ça, c'est à cause de ce monsieur. J'ai appris difficilement la relation patron-serviteur ou maître-ouvrier. Voilà. Alors voilà, les trois éléments que j'aimerais bien que vous ayez en tête. La belle relation entre Cathy et Stéphane, la relation politique que nous pouvons avoir pour la foi que nous pouvons quelquefois avoir. Enfin, nous, je ne pense pas que nous puissions avoir de la foi dans un programme politique quel qu'il soit, mais certains l'ont. Et puis, cette relation avec mon directeur, pour lequel j'aurais bien voulu qu'il représente le Seigneur, parce qu'il nous est dit de faire tout, n'est-ce pas, pour que nous faisions comme si nous le faisions pour le Seigneur. Et moi, j'étais parti dans cette idée, mais ce n'était pas possible. Imaginez donc, ça va vous faire rire, que je puisse dire un jour, je tape à la porte du chez le directeur, et que je lui dise, monsieur le directeur, j'apprécie tellement votre présence, et je vous apprécie tellement que je désire être à votre service pour toujours. Vous imaginez ça? C'est pas possible. Hein, pas possible. Eh bien, il existe dans la parole de Dieu une situation où c'est possible. La relation patron-ouvrier telle que nous la connaissons aujourd'hui, elle est délétère, elle est complètement morte, il n'y a pas de relation. D'un côté, c'est quoi? C'est l'économie de marché, vous la connaissez bien, où l'ouvrier, ou le serviteur, si vous voulez, est esclave de l'autorité, qui est implacable, qui n'a aucun cœur. Et d'un autre côté, vous avez d'autres qui disent... La dictature du prolétariat, c'est la seule chose qui puisse marcher. C'est-à-dire, de toute manière, les relations patron-ouvrier, serviteur-maître n'existent pas. Eh bien, vous le savez certainement, dans la parole de Dieu, et ça a dû exister de temps en temps, peut-être pas toujours, mais dans la parole de Dieu, ça existe. Ça existe. Deutéronome chapitre 15 nous le dit, et c'est une chose qui doit nous surprendre et qui, à l'inverse, à complètement à l'opposé des relations sociales qui existent dans ce monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Je pense que le chapitre 15 de Deutéronome nous donne une préfiguration, un état d'esprit que nous ne voyons pas du tout dans le monde. N'est-ce pas? Vous savez que dans ce chapitre 15 de Deutéronome, on parle du jubilé. Tous les 7 ans, les choses étaient remises à plat. Un champ avait de la valeur qu'en fonction de l'âge de la date du jubilé. Et donc, dès que le jubilé était passé, le champ avait la valeur de 7 ou de 6 récoltes. Et puis, il perdait de sa valeur jusqu'au prochain jubilé. Il y avait une régulation, il n'y avait pas de spéculation possible. Il y avait des choses que Dieu avait mises en place qui empêchaient aux choses d'avoir une valeur indécente, comme il existe aujourd'hui. Mais et les gens? Il y avait des gens qui... Alors, Dieu dit, si tu m'obéis, si tu fais ce que je te dis, si tu prends le mode d'emploi que je te donne, en gros, dans sa loi, il dit, eh bien, tu seras toujours heureux. Tes champs vont bien fonctionner, tes animaux vont donner des veaux, des animaux, d'autres animaux, ça va bien marcher. Mais il existera peut-être de temps en temps un de tes frères qui soit pauvre et qui sera obligé, même en étant pauvre, de venir te voir. Je vous donne un exemple. Nous voyons ici l'exemple d'un anonyme qui, je vais lui donner un nom, il s'appelle Ibrahim, allez, et il va voir Youssef, n'est-ce pas? Ibrahim vient voir Youssef et lui dit, écoute Youssef, je te dois beaucoup d'argent. Mais, tu sais, j'ai des problèmes, mon épouse est malade, ou je sais pas, ou mes enfants, j'ai dû encore dépenser l'argent que j'avais gardé pour te le rendre. Je ne pouvais pas te le rendre. Je ne vois pas d'autre solution que... Et il n'a pas le temps de répondre que Youssef lui dit, oui, tu as raison, on va faire comme ça. La loi de l'Éternel nous le permet. Elle nous dit, tu seras mon serviteur. Tu seras comme tu seras salarié comme un mercenaire. Il nous est dit que le mercenaire avait un certain salaire et que le serviteur était payé le double d'un mercenaire. Et tu seras à mon service pendant 6 ans. Et puis au bout de 6 ans, je te libérerai, dit Youssef à Ibrahim. Et puis tu pourras reprendre, parce qu'il nous est marqué dans le Deutéronome qu'il ne fallait pas rendre la liberté à son serviteur qui était pendant le jubilé, enfin entre les deux jubilés, qui était donc devenu esclave, ou plutôt serviteur, c'est plutôt le terme. Et pendant ces 6 ans de vie avec son maître à cause de la dette qu'il avait, il apprenait. S'il ne savait pas gérer, ben, il apprenait, il voyait le maître comment il faisait, et puis il y a une relation qui s'établissait entre le maître et le serviteur, et au bout des six ans, le serviteur était renvoyé avec un peu de grain, selon la richesse du maître. Le maître donnait à son serviteur qu'il libérait au jubilé assez de biens pour qu'il puisse se lancer dans la vie. C'est merveilleux. La relation patron-ouvrier, c'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'on vous renvoie de votre emploi, je ne sais pas si c'est le patron qui s'occupe de vous payer ce qui est nécessaire pour vous relancer dans la vie. Voilà ce qui se passait en Israël. Un équilibre social merveilleux construit par Dieu lui-même. Voilà. Ça nous laisse sans voix, n'est-ce pas? Mais vous concevez bien que Deutéronome 15 nous parle de quelque chose de plus spirituel. D'ailleurs, à un moment donné, il nous est dit, Deutéronome 15, chapitre 15, verset 9, « La septième année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus pour une dette. » Il criera à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne pas à regret. Donc, il y avait un problème, c'est vrai. Imaginez que quelqu'un vienne vous emprunter juste un peu avant le jubilé. Hein? Vous allez dire, mais attendez, toi tu ne vas pas me rembourser, quoi, c'est pas possible. Rien, c'est dans un an ou deux. Que ton cœur ne lui donne point à regret. Et nous comprenons que la loi de Dieu n'était pas un recueil de préceptes ou de mécanismes dont il fallait cocher les croix lorsque nous l'avions réalisé, mais qu'elle procédait de quelque chose qui va plus loin que ces procédés, qui était le cœur. Que ton cœur ne lui donne point à regret. Ça, c'était pour ses problèmes financiers. Et puis, si, comme je l'ai dit, ce personnage, Ibrahim, n'arrivait pas à rendre, alors il devenait serviteur. Et il nous est dit, verset 12, « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vante à toi, il te servira 6 années. Mais à la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras dans la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu ne trouveras pas dur de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi 6 ans, ce qui vaut le double du salaire d'un mercenaire. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu feras. Vous voyez, cette loi de Dieu qui est quelquefois présentée comme quelque chose de pénible et de... J'ai fait ça et ensuite il va falloir que je fasse ça et ensuite je dis ça. Ça partait de ce que Dieu voulait, qu'il y ait plus que la réalisation de certains préceptes, mais bien quelque chose qui vient du cœur, n'est-ce pas? Mais vous avez remarqué aussi, c'est qu'il y avait un serviteur qui pouvait à un moment donné dire, Maître, j'aime tellement ta présence, j'aime tellement être près de toi que... Je désire pour toujours être à ton service. Donc nous voyons dans ces passages quelque chose qui fait écho chez nous, n'est-ce pas ? Qui fait écho chez nous et qui nous fait penser à la relation que le Seigneur voudrait nous voir, avoir, et donc Daniel a parlé d'une autre façon, mais c'est un peu la même chose, avec le Maître bien-aimé. Que ce soit dans la souffrance ou que ce soit dans la richesse, cette relation qui va plus loin que des commerces, si vous voulez. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, ça c'était le premier exemple, Ibrahim, un anonyme. Je vous parlais d'un autre qui lui aussi, à un moment donné, a compris, parce qu'il y avait quelque chose de spirituel en lui, c'est certain, qui a compris ce même principe pour lui-même. C'était un petit berger sans grande expérience, sans grande envergure plutôt, et qui chantait dans les champs de Bethléem. Et à un moment donné, il chantait tellement bien qu'il y a des soldats qui passent sur la route et qui disent « qu'est-ce qu'il chante bien, lui ? C'est un gamin encore, mais qu'est-ce qu'il chante ? Il chante bien !» Et je pense qu'ils ont dit, ils ont dû dire, il chante bien, musicalement bien, mais également spirituellement bien. Ce jeune berger, on va prendre un de ses cantiques, si vous voulez, et dans le psaume 8, il nous dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Hein, » vous voyez, hein, psaume 8. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Que ton nom est magnifique sur toute la terre, éternel notre Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as mis sous ses pieds les brebis, comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Je ne sais pas si c'est ça que les soldats de Saül ont entendu quand David chantait, mais lui, il était là et il chantait. Il n'avait aucune volonté, carrière politique, quoi que ce soit, il était simplement un simple berger. Voilà. Et je vous ramène à Hébreux chapitre 2, où vous voyez que dans la version des Septante, il nous est dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. » C'est-à-dire que les traducteurs ont traduit le verset 6 du psaume 8, hein, je vous le répète, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Dans Hébreu, il est dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » La traduction est très libre. Et celle des Hébreux se rapporte non pas à David ou aux hommes, mais au Seigneur lui-même. Donc, nous voyons ce petit berger sans grande envergure qui, à un moment de sa vie, lorsqu'il est devenu roi, au psaume 40, et je ne vais pas lire tout le psaume 40 parce qu'on n'a pas le temps, mais au verset 7, il est dit, alors je reprends un peu le psaume 40, si vous voulez, c'est David qui est roi en Israël, qui n'a plus de maître, c'est lui le roi. Il n'y a plus personne au-dessus de lui, a priori. Il n'y a plus que lui. Et nous voyons que dans sa disposition de cœur, David sait qu'il a toujours un maître. Il pourrait faire tout ce qu'il veut. Il est maître. Il est le roi. Et il dit au verset 7, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Deutéronome 15, lui, il l'avait au fond du cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. David avait tendance à dire, lorsqu'il était avec ses conseillers, écoutez, vous pensez comme ça, mais Dieu pense autrement. Et moi, qui suis soumis à Dieu, je pense que c'est ceci. Vous voyez, il y avait toujours, non pas un roi, un potentat, qui était là et qui disait, taisez-vous parce qu'il n'y a, a que moi qui commande, mais il avait toujours quelqu'un qui était au-dessus de lui, il le savait, pour l'inspirer et pour lui dire, et dire aux autres, je vous confesse que je ne suis pas le vrai maître. Je ne suis pas le vrai maître. Mais ce qui est très important, à mon avis, c'est ce qui nous est dit au verset 7. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. En traduction un peu plus, ça veut dire une chose. David est allé voir son maître, lui le serviteur, et il a dit à son maître, tu sais maître, je voudrais être tout le temps près de toi. Je désire tout le temps être près de toi. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. C'est ça qui est dit ici. Donc je voudrais aller à la porte et que tu me perces les oreilles, que tu m'ouvres les oreilles. Et David dit cela en se comparant à un serviteur qui est devenu serviteur d'un maître parce qu'il y avait une dette envers ce maître. David a compris qu'il avait une grande dette vis-à-vis de Dieu. Et ce qui est curieux aussi, c'est qu'il a dit quelque chose qui paraît un peu prétentieux. Il dit, au verset 8, David, hein, c'est David qui parle. Hein. David, il dit, voici je viens avec le rouleau du livre dans lequel il est question de moi. David dit cela. Il dit, voilà, je suis mandaté par Dieu, je suis le roi que Dieu a désiré, le roi que Dieu a oint. Et voilà, dans le livre, il est question de moi. Comment a-t-il pu dire une chose pareille? Ça fait vraiment prétentieux. Eh bien non, il sait qu'il a été mandaté par Dieu. Lui, le faible David, lui qui a été sorti de sa carrière de berger, de petit berger de Bethléem, il s'est retrouvé devant la scène politique, mais devant tout le monde. Et ce petit David de rien du tout, qui a toujours été, enfin, en général, très humble, il lui est arrivé de pécher, bien sûr, mais il est toujours resté dans cette situation de petit berger, tout en étant le roi, parce qu'il avait un maître au-dessus. Et il a dit, donc, que dans la Bible, on parlait de lui. Mais comment il a pu dire une chose pareille? Eh bien, un jour, vous savez ce qui s'est passé, le voyant de Bethléem est venu voir son père. Et puis, son père a fait défiler tous les fils devant lui. Et puis, il a dit, mais attends, il y a un problème là. C'est fini? T'as plus de fils? Ah si, j'en ai encore un. Mais il est en train de garder les brebis. Ah, il faut que t'ailles le chercher. Alors, il y a un serviteur qui a couru pour aller chercher le petit. Hein, et le petit est arrivé. Et vous savez ce que le voyant a dit? Il a dit, c'est lui. Tu vas le oindre de l'huile sainte. Et pendant un certain temps, David s'est retrouvé avec un parfum interdit. Vous savez que l'huile sainte, personne n'avait le droit de la fabriquer, sauf le sacrificateur, n'est-ce pas? Et donc il s'est retrouvé avec ce parfum. Et David a eu l'Esprit de Dieu dès ce moment-là, nous est-il dit. Et David a été donc convaincu, non pas par prétention, qu'il était le Messie envoyé de l'époque. Celui de l'époque, hein, pas le véritable Messie, mais celui qui était envoyé. Il nous est dit d'ailleurs, dans Genèse 49, je crois, Genèse 49, il est dit, verset 8, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne l'envoyé, le Shilou, et que les peuples lui obéissent. Il a compris qu'il était l'envoyé, David. Il a compris que cette onction qu'on lui a donnée quand il était jeune, c'était l'onction de celui qui serait le roi d'Israël. Et il a dit, voilà, je ne me prends pas pour quelqu'un d'important. Je veux aller à la porte, parce que c'était la porte, non pas n'importe quelle porte, c'était la porte du temple. Et au temple, le maître poinçonnait l'oreille du serviteur qui avait désiré être serviteur pour toujours de son maître. Ce n'était pas le maître qui imposait le poinçon, on est bien d'accord. Hein. C'était le serviteur qui, devant l'amour de son maître, était prêt à devenir serviteur pour toujours. On est loin de la lutte des classes, hein. On est loin de la pression des grands sur les petits. Voyez, il y a une relation intime d'amour qui rayonnait tellement que le serviteur pouvait en arriver à dire le jour de jubilé. Tu sais, il y a un truc qui ne me va pas bien, c'est que ce jubilé, pour moi, ce n'est pas vraiment la liberté. Je préfère être ton serviteur pour toujours parce que ça, c'est la liberté. Extraordinaire, extraordinaire. Mais alors, le Seigneur Jésus, et je terminerai par là, dans Hébreux, au chapitre 10, il nous est dit, et ça c'est encore plus prodigieux que tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Dans le chapitre 10, il est dit que la loi possède une ombre des biens à venir. La loi, c'est une représentation, c'est un système qui permet de faire réfléchir l'individu et de l'amener à aller plus loin que la loi. Un peu comme Nathanaël, coincé en sous son figuier. Il se dit, mais je comprends pas. Il est comme, enfin, il est un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. Et donc, il doit probablement se poser la question, comment ça se fait que la loi ne mène pas à la perfection? Je pense que c'est ce qu'il disait, ce qu'il pensait. Je le pense. On ne peut pas le savoir, hein, mais je pense que c'est ça qui devait penser Nathanaël. La loi possède une ombre des biens à venir, verset 1 du chapitre 10 des Hébreux, et non l'exacte représentation des choses. Elle peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Sinon, on aurait cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant déculpabilisés, si vous voulez, n'auraient plus du tout eu envie de recommencer à aller tous les ans expier leurs péchés. Mais le souvenir des péchés, verset 3, est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Car impossible pour ces sacrifices, hein, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Et ça, c'était prévu depuis toujours. Et c'est ce qui nous est dit juste en dessous. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, a dit, et il évoque le psaume 40, c'est-à-dire la situation de David lorsqu'il était roi, hein. Il n'a pas dit je suis le roi, le super, il n'y a personne au-dessus de moi. Certains ont dit je suis le seul maître après Dieu, mais bon, le Dieu en question, ils n'en avaient rien à faire, et puis c'était vraiment eux qui étaient maîtres, point. Hein. Là, ce n'est pas le cas, hein, pour David. Et là, on voit la même chose avec Dieu, Dieu le Fils, qui, avant la fondation du monde, décide quelque chose avec son Père, et il dit à son Père, mon Père, j'éprouve tellement plaisir à être en ta présence qu'il n'y a rien de mieux pour moi que j'aille me faire percer l'oreille à la porte du temple céleste. En gros, hein, on pourrait dire la même chose. Regardez, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et « tu m'as formé un corps », c'est la traduction de « tu m'as ouvert les oreilles ». C'est quand même une traduction assez libre, vous voyez. Et les Septante, hein, donc ces juifs de l'époque qui ont traduit en grec, ils ont traduit comme ça. Parce que ouvrir les oreilles pour un grec, ça évoque pas grand-chose. Donc ils l'ont traduit de manière particulière, c'est la traduction des Septante, qui est reprise comme une traduction autorisée, puisque la Bible l'autorise, et qui dit « tu m'as formé encore ». C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ, dans les temps éternels, a décidé de se faire percer l'oreille, de quelle manière? En devenant serviteur. Et il nous est dit qu'il est devenu serviteur. et qu'il est apparu comme un simple homme. Et que, étant simple homme, il s'est humilié en allant jusqu'à la mort de la croix. Et vous voyez, tout cet itinéraire qu'il a décidé et qui est finalement le désir de Jésus, du Fils éternel, d'être tout le temps en obéissance et en intimité avec son Père. Et ça, nous le retrouvons dans le couple, homme et femme. Nous le retrouvons aussi dans cette situation d'Ibrahim et Youssef, hein, que j'ai pris un anonyme, que nous retrouvons dans David, qui dit « Un jour dont t'es pas arrivé vaut mieux que mille ailleurs. » Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. » Ce principe d'intimité entre David et Dieu. N'est-ce pas ? Et nous trouvons ce même principe dans le Fils, alors qu'il était encore avec son Père avant de descendre sur terre pour accomplir ce prodigieux projet qui était de nous sauver par grâce. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il reprend le psaume 40. Et ce psaume 40 qui était 100% David, était en même temps 100% Dieu. 100% David, inspiré de Dieu, c'est 100% Dieu. Et il dit ici, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, verset 8, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi de manière rituelle. Hein, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Et donc il supprime ce principe de la loi qui était juste extérieur pour en faire un principe intérieur. Vous voyez, dans les relations patron-ouvrier, moi je crois que... Enfin, j'ai essayé avec mon patron, à un moment donné, je me disais, mais... Je dois quand même montrer que je suis serviteur de cet homme. C'était terrible, c'était terrible. Je peux vous confesser que c'était terrible. Et je pense que le Seigneur, quelquefois, m'a aidé à le faire. Mais parfois, je me souviens de certaines expériences avec ce patron, j'ai fait des erreurs, vous savez. À un moment donné, j'ai fait une erreur, je me souviens. Il voulait faire de moi son serviteur. Il fallait que j'aille chercher son tabac, que je fasse ceci, cela. Et moi, j'ai pas fait attention. J'ai oublié d'aller chercher son tabac, mais je n'avais pas fait attention. Et c'est parce que j'étais étourdi, quoi. Mais lui, il a pris d'une manière plus spirituelle, si vous voulez. Il a compris que moi, je voulais bien être son serviteur, mais jusqu'à un certain point. Et je crois que le Dieu a permis ça. Que de temps en temps, mes étourderies, ça soit dans le bon sens pour le Seigneur, quoi. Mais vous voyez ce qui se passe, c'est ça. C'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions dire « Seigneur, tu m'as libéré, mais il n'y a rien de mieux que d'être en ta présence. Donc, je veux que tu m'ouvres les oreilles. » Et ce principe qui existe dans le Fils de toute éternité, on doit le retrouver dans ses enfants pour toute l'éternité.